pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce qu'elles ont en commun, c'est l'amour insondable qu'elles portent à leur fils. La volonté farouche de ne pas rompre le lien, de s'accrocher à l'enfant qu'il était, de ne pas voir. Une forme d'aveuglement donc, de déni qui se remarque chez toutes ces femmes. Ce qu'elles partagent aussi, c'est que ce sont elles qui parlent et jamais les pères. Elles sont devenues, en quelque sorte, des figures archétypales, entendues par la justice, interviewées par les médias, jugées et parfois condamnées. Mais à chaque fois, elles y vont, comme au front, et défendent leur fils. Elles vivent aussi la même peur ou le même chagrin quand le fils est mort, mais les ressemblances s'arrêtent là. Car évidemment et heureusement, les mères de djihadistes ne sont pas toutes les mêmes. Pascal Robert-Diard raconte dans Le Monde que quand Zouliha, la mère des frères Mera, a appris que c'était son petit dernier, Mohamed, qui avait tué 3 militaires, grièvement blessé un quatrième et abattu à bout portant 3 enfants de 8, 5 et 3 ans, et le père de 2 d'entre eux devant l'école juive Ozzara Torah de Toulouse, elle a déclaré « Mon fils a mis la France à genoux ». Elle a également toujours protégé ses garçons violents et ne parle plus à sa fille depuis des années. Christine Rivière est encore plus extrême, si on peut dire. Champenoise, originaire de Troyes, elle est la mère de Tyler Villus, devenu émir de l'État islamique. Elle s'est convertie à l'islam, a épousé les idéaux djihadistes de l'organisation terroriste et a suivi son fils en Syrie à 3 reprises. Elle a été jugée en octobre pour association de malfaiteurs terroristes. Un expert psychiatre, également cité par Le Monde, a toutefois estimé que, je cite, « la conscience de soi et l'esprit critique, qui caractérisent en général la réflexion, sont absents chez Madame Rivière ». Manière élégante de dire qu'elle est quasiment imbécile. Le psychiatre a également émis l'hypothèse que son idéal de relation avec son fils avait trouvé, je cite encore, « un aboutissement dans son fantasme de fusion avec lui à travers l'extase religieuse ». Nathalie Haddadi n'est rien de cela. Elle n'est pas du tout dénuée de réflexion, elle est diplômée, qualifiée, intégrée. Elle n'est pas plus religieuse qu'elle ne porte de foulard ou ne fait de prière. C'est une femme française, comme vous et moi, Madame Tout-le-Monde, en un peu plus vive, pimpante, jolie. Elle vit dans un très coquet village à côté de Strasbourg, elle est commerciale dans une grosse boîte d'agroalimentaire et elle ne soutient aucunement les agissements des terroristes de l'État islamique. Elle a pourtant été condamnée à 2 ans de prison ferme pour financement du terrorisme. Elle raconte sa version des faits jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture au micro de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vous avez compris, en refaisant un peu le parcours de Abbès, votre fils, à quel moment il s'était radicalisé ?
Il s'est radicalisé en prison, je l'avais signalé. Personne ne m'a écouté. Moi, voilà ce que j'ai remarqué. Il passe quelques mois en prison et sort l'été 2015 radicalisé, avec un discours... très dur, qu'il faut pratiquer l'islam, la prière, etc. Même vis-à-vis de moi, ma tenue vestimentaire, que je m'habille un peu trop à l'européenne, que je ne pratiquais pas correctement l'islam. Et on avait pas mal de discussions sur ça. Mais après, un jeune de 20 ans, vous pouvez pas prendre son téléphone et par exemple regarder avec qui il parle, quelle vidéo il regarde. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec un jeune de 21 ans. Et c'est là où je décide de contacter mon ex-mari qui est toujours en Algérie. Et donc, du coup, je l'appelle, je dis, écoute, je m'inquiète beaucoup pour notre fils et je ne sais plus comment gérer. Est-ce que tu pourras t'en occuper ? Et il me dit, oui, il n'y a aucun souci, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Il sera très bien encadré, très bien entouré. Il est heureux, il va voir toute la famille. Il a des projets professionnels. Il m'appelle une fois, il me dit, mais tu sais maman, à Sidi Bel Abbès, c'est la ville d'où on vient, ils ne connaissent pas le tacos. Je vais ouvrir un petit snack et leur faire découvrir le tacos. Ben, c'est très bien mon fils, il commence à chercher justement un local. Ensuite, sa tante, la sœur de son père, m'appelle une fois, il me dit, ton fils est amoureux, une belle brune, grande, claire de peau, géniale. Je suis heureuse. Je me suis dit, pourquoi pas vivre en Algérie, bien entourée, bien encadrée, avec des projets. Et je dis, mon fils, je t'aiderai financièrement jusqu'à que tu puisses démarrer et commencer une nouvelle vie. 6 mois après, il m'appelle, il me dit, j'arrive plus à vivre en Algérie. J'ai grandi en France, j'ai mes repères, j'ai mes amis me manquent. Vous me manquez, je veux rentrer. Tu veux rentrer ? Soit, il n'y a pas de souci. Par contre, je dis, t'es parti malgré l'IST, l'interdiction de sortie du territoire. Tu feras quelques mois de prison, tu dois quelque chose à la société, et ben tu le fais. Du coup, il me dit, je sais que je vais rentrer, je vais aller en prison, il n'y a pas de souci. Par contre, maman, je ne suis jamais partie en vacances. Moi, j'aurais pu lui dire non, tu rentres. Mais il ne m'aurait jamais écouté, il aurait coupé le lien. Et donc, du coup... C'est là où j'utilise ma carte bancaire pour lui payer son billet Alger Kuala Lumpur. Mmh. Il arrive là-bas et là il m'envoie des photos, mais magnifique, hein. Cette île paradisiaque, le sable fin, les palmiers, l'eau transparente, pas de barbe, pas de moustache, toujours souriant. Quelques semaines après, plus de contact, plus de nouvelles. Donc, je suis inquiète. Un jour, en juin 2016, il m'appelle, après plusieurs semaines d'absence, sans nouvelles. Maman, je te demande pardon. Je t'aime, mais j'aime Dieu plus que toi. Je suis venue aider les musulmans avec l'État islamique. Mais abaissez-vous, abaissez. On s'est parlé une trentaine de secondes, pas plus. Plus de nouvelles. Un mois après, il m'appelle, mais là, j'ai eu le luxe de lui parler presque 2 minutes. Ça va, maman, mon petit frère, ma petite sœur, vous me manquez, je vous aime, etc. Et là, je sens qu'il n'est pas seul. Je sens qu'il ne parle pas librement. Et là, il me dit, maman, il y a des horreurs ici. Mon fils, s'il te plaît, reste vivant. Et c'est là où il coupe. Plus de nouvelles. Un 17 août 2016. C'était une journée où j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Et donc, je reçois un message venant du téléphone de mon fils. Il m'écrit « Salam alaikum ». Et donc, du coup, je lui écris « Tu me manques ?» Je me rappellerai toujours, je lui dis « Mais tu me manques ?» Et là, on m'écrit « Je ne suis pas ton fils ». J'ai compris. Parce que je sais que personne n'aurait pu toucher à son téléphone, à moins qu'il soit mort. Là, la personne m'appelle et me dit « Félicitations, votre fils est mort en martyr. » Le pire dans cette situation, c'est que vous êtes obligé de rester calme pour avoir plus de renseignements. Et là, je le bombarde de questions. Il est mort où ? Quand ? Comment ? Il a été enterré ou pas ? Et là, soit il ne savait pas, soit il ne voulait rien me dire. Je ne sais pas, on m'a dit, je pense que... Et puis il a écourté la conversation. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais sur mon canapé, posée dans mon salon. je ne sais pas combien de temps après, je me suis retrouvée dans la salle de bain, par terre. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé entre comment j'ai pu me retrouver dans ma salle de bain par terre. Je n'ai aucun souvenir. C'est une douleur inexplicable. C'est fini. C'est fini, il n'est plus là. Je ne lui ai pas dit au revoir. Ce 14 juin, c'était un mardi, je me rappellerai toujours. Donc tout le monde dormait. Chacun était dans sa chambre, mon fils, cadet, ma petite et moi-même. À 6 heures du matin, on entend un vacarme. Vous pensez forcément un tremblement de terre. Finalement, c'était le raid en train de casser la porte. Des hommes armés jusqu'aux dents, avec des grenades, des clashs, Kalachnikov, une trentaine de personnes à l'intérieur et une dizaine à l'extérieur. Bougez pas, à terre, à terre, à terre, bougez pas. Vous êtes en petite tenue parce que vous sortez du lit, forcément. Et on vous met au sol, on vous menotte. Je pense que la première chose que je me suis dite, c'est je vais me réveiller, c'est pas possible. J'étais anormalement calme. Et là, j'entends, vous êtes accusé de financement du terrorisme et association de malfaiteurs. Et vous êtes en garde à vue. Donc là commence une perquisition. On fouille tout, tout, tout. Le congélateur, le frigo. On pousse tous les meubles, vos sous-vêtements, vos photos. Tout ce qui est intime. J'ai regardé la petite de 9 ans qui assiste à tout ça. Et j'ai vu la peur. Et j'étais menottée, je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Je ne pouvais pas la rassurer. Et pour moi, c'était violent. Je ne pouvais pas rassurer ma fille. On nous a fait sortir de mon appartement. On nous a mis des sacs de... Moi, j'appelle ça les sacs de riz sur la tête. J'avais, je pense, le même dispositif que Mera, que Koulibaly. On m'embarque au commissariat de Strasbourg. J'y ai passé 2 jours. Et donc là, on commence les questions. Le nom, le prénom, la profession. Madame Adadi, Nathalie, commerciale. Maman de 3 enfants. Femme ordinaire.
Je vous avais dit ça ?
Oui. Je suis juste une femme ordinaire, je comprends pas. Association de malfaiteurs, financement du terrorisme, j'avais pas compris. Pas du tout. Et donc les auditions commencent. J'en ai eu 7 en tout. Pendant des heures et des heures. On me posait des questions sur mon fils, sur ce que je savais, sur son départ. Mais moi, j'avais besoin de savoir. Je leur posais la question, mais... C'est quoi pour vous financement du terrorisme? Expliquez-moi, vous me reprochez quoi? Vous avez aidé votre fils, Madame Adadi. Mais oui, j'ai aidé mon fils, bien sûr. Bien sûr, il n'avait pas d'entrée d'argent. Bien sûr, je ne voulais pas couper le lien. Oui, j'ai aidé mon fils. Vous avez aidé le terrorisme, Madame Adadi. Non, monsieur, je n'aiderai jamais ces barbares. Non, monsieur, ils m'ont pris mon fils. Vous avez faim, vous avez soif, vous avez peur. On vous auditionne pendant des heures et des heures. Et finalement, on vous tend un procès-verbal de 15-16 pages. Vous n'avez même pas envie de le lire, vous signez. Vous avez juste envie de retourner en geôle et de dormir. Ce qu'on me reproche... C'est d'avoir aidé mon fils à quitter le territoire malgré l'IST, l'interdiction de sortie du territoire, première accusation. Deuxième accusation, c'est de l'avoir aidé financièrement et d'être au courant de sa destination finale.
La Syrie.
La Syrie, tout à fait, oui. Mm-hmm. Donc c'est une somme de 2800 euros envoyée en Western Union en 5 fois, en 2016. Une fois les 2 jours passés à Strasbourg, on nous a emmenés à Paris. On a pris le train. Et donc, vous êtes emmenés au tribunal. Vous passez devant un juge. Il vous donne quelques documents à signer. Il vous explique que vous passerez devant un juge. Que vous avez l'obligation de pointer une fois par semaine, de ne pas quitter le territoire, etc. Et on vous lâche dans la nature. Donc... J'avais juste un sac en plastique où j'avais quelques affaires. Vous avez faim, vous n'avez pas d'argent. Et donc, vous fraudez le train, bien sûr. Et vous êtes vide. Ce 14 juin 2017, j'ai compris le pourquoi de ma garde à vue, c'est suite à une dénonciation, je me permets même de dire une délation, tout part de là. Une ex-amie voulant régler nos conflits a appelé les services concernés pour leur dire que j'étais une partisante de Daesh, que j'étais fière de mon fils, que j'étais complice du départ de mon fils en Syrie. Malgré l'IST. Tout part de là. 2 mois avant, j'ai eu un très gros souci avec elle. Privé, très privé.
D'accord.
Et donc, du coup, nos rapports étaient exécrables. Donc, derrière, il y a une envie de se venger. Mon procès du 5 septembre a été basé sur des suppositions. Nous pensons que Madame Haddadi a fait ça et ça suite à ce que Madame X a pu nous dire. Sachez une chose, elle refuse de venir témoigner. Elle refuse. Et je peux très bien comprendre que l'État fasse son travail, parce que ça aurait pu peut-être être vrai. Donc il y a eu enquête sur moi, ma vie, pendant 1 année. J'étais sur écoute, on a épluché mon compte bancaire, ils sont revenus 4 ans en arrière. Ma vie privée, ma vie professionnelle, les voisinages, tout, tout.
Et ça, vous n'êtes pas rendu compte, Nathalie, que vous étiez surveillée ?
Non, pas du tout, pas du tout. Et tout ça pour arriver à la conclusion suivante. Madame Haddadi est musulmane non pratiquante et vit à l'européenne et n'a aucun lien avec le terrorisme. Mais on la poursuit quand même. Il y a quelque chose qui m'a marqué. L'avant-dernier jour de ma garde à vue, j'étais à Paris avec toujours le même enquêteur. Et donc, bien sûr, à force de me poser des questions, j'avais envie de lui poser moi-même une question. Et donc là, je lui dis, monsieur, pensez-vous que je suis un danger pour l'État français ? Et là, il sourit. Et il me dit, mais bien sûr, Madame Haddadi, on le sait que vous n'êtes pas un danger. On est venu chez vous, on n'a rien trouvé, on le sait. Extraordinaire, non ? Pour une personne qui n'est pas dangereuse.
Et comment s'est passée cette journée de procès ? C'était très vite entre le moment où vous avez été arrêté et le moment où vous avez été jugé ?
Entre le moment où j'ai été arrêtée, c'est-à-dire le 14 juin 2016, et le moment où je suis passée devant le juge le 5 septembre, donc déjà c'était très court parce qu'il y avait la période des vacances, et aussi j'ai pu avoir un avocat que plusieurs semaines après mon arrestation, on n'a pas eu le temps de tout préparer et surtout leur ramener les éléments et les preuves à décharge. Et donc du coup, beaucoup de preuves à décharge n'ont pas pu être déposées malheureusement. Donc j'avais l'impression que on ne m'écoutait pas, que la décision était déjà prise, que c'était parti pris et que ça devait être comme ça et pas autrement. C'est vraiment mon ressenti. Moi, j'estime que je n'ai pas eu un procès juste. Mais par contre, j'ai confiance en la justice française. J'ai énormément confiance en la justice. J'ai besoin de leur faire confiance. Et je me dis, le prochain procès, j'espère qu'on va me laisser m'exprimer et j'espère qu'on va prendre en compte et en considération tous les éléments que je n'ai pas pu présenter le 5 septembre. Donc le verdict, il est tombé le 28 septembre, c'est-à-dire quelques semaines après. Et donc ça a été 2 ans de prison ferme, aménageable. 2 ans ferme. D'ailleurs, on a fait appel tout de suite après le verdict. Et inscrite au fichier FIGET. Fichier FIGET, c'est le fichier où tous les grands terroristes sont inscrits. Et donc, j'en fais partie, voilà. Donc, je dois déclarer mon adresse et tout changement ou si je dois faire un déplacement important. Donc, il faut que je passe au commissariat, que je les informe de tout. Je suis fichée au niveau de toutes les douanes. Donc, voilà. J'ai pris conscience que ce qui m'arrivait n'était pas anodin, n'était pas rien. Il y a cette espèce d'acharnement. Je pense qu'on souhaite faire exemple de mon affaire pour que justement les parents dénoncent et surtout coupent les liens avec leurs enfants. Je pense que ça donnera l'effet inverse. Tout le monde me dit, mais on aurait fait exactement pareil. On ne laisse pas tomber ses enfants. Aujourd'hui, on me reproche de ne pas avoir fait confiance à la justice. Faut voir comment on vous traite. J'aurais bien aimé qu'on me contacte, qu'on me dise, Madame Haddadi, votre fils est mort, on va vous aider. On a un ennemi en commun, le terrorisme. Il vous a fait mal, il vous a pris votre fils. Venez, dites-nous ce que vous savez. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, j'aurais été en confiance, mais j'ai été traitée comme la plus grande terroriste. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand on vous accuse d'avoir été au courant de la destination finale, d'avoir envoyé mon fils à la mort. Vous connaissez beaucoup de mamans qui ont verré leurs enfants mourir. Suite à mon affaire, donc j'ai pris contact avec le collectif des parents dont les enfants sont partis en Syrie. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que on est des mamans de toute origine, de toute culture, française de souche, catholique, athée, musulmane. On a toutes ressenti cette même douleur. On est toutes dans la même détresse. Et d'instinct, on se prend dans les bras l'une de l'autre. On a cette souffrance en commun, on se comprend. Chacune son histoire, chacune son récit, mais la douleur est la même. Vous savez, j'ai pu arriver à la conclusion suivante en parlant avec plusieurs parents. Dans l'endoctrinement de nos enfants, on leur apprend à être très naturel et ne pas inquiéter les parents. Mon fils, il m'envoyait des photos, il me parlait, c'était un jeune, en vacances, aimant la vie. Jamais je n'aurais pensé qu'il aurait pu aller en Syrie. C'est un jeune homme très sportif, le culte du corps. C'est un jeune homme très maniaque sur lui. C'est quelqu'un qui prend 3-4 douches par jour, qui se change plusieurs fois. Il utilise des crèmes, il fait attention à se coiffer. Très coquet. Et vous dites, quand vous êtes très coquet, vous ne pouvez pas aller dans un endroit où il y a déjà la guerre, où on ne peut pas se doucher pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça ne correspondait pas à ce qu'il était. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en parlant avec son père, c'est là où j'ai pris conscience de la force de la manipulation quand ils sont endoctrinés. Son père me dit, mais je comprends pas, il allait rentrer en France, il allait se remettre avec une fille qu'il connaissait, mais même cette fille, elle m'a parlé au téléphone, il avait des projets aussi.
Donc il y a une vraie dissimulation, une comédie, une dualité entre...
Ah, mais au point de demander à une fille d'appeler son père pour se présenter autant que future belle-fille, c'est extraordinaire. Un film pour la maman et un film pour le papa. Les parents des djihadistes, c'est les premiers victimes de leurs enfants. On vit dans la souffrance. Dans mon combat, j'ai envie d'aller vers ces jeunes et de leur dire « Vos premières victimes, les personnes que vous allez tuer, c'est vos parents, c'est vos amis, c'est nous vos premières victimes. Et si j'arrive à en sauver un ou deux, je serai la plus heureuse. » C'est une façon aussi d'essayer de faire le deuil, parce que je sais que je ne peux pas le faire. Donc j'ai pris conscience de l'importance de ce combat, parce que derrière, il y a encore des centaines de familles qui sont dans mon cas. Vous savez, il y a des familles qui ont envoyé de l'argent en Syrie à leurs enfants, mais aucun de ces parents n'a pu envoyer de l'argent pour aider justement un État terroriste. C'est juste pour aider leurs enfants. A changé. Rien ne sera pareil. Vous savez, quand je vais à Strasbourg-Ville pour faire mes papiers ou mon shopping, j'ai l'habitude d'aller à une grande pâtisserie bien connue à Strasbourg. Et moi, mon petit péché mignon, c'est l'opéra. J'adore ça. Donc, c'est mon petit moment café, salon, thé, opéra. Donc, la dernière fois, j'y vais. Je commande un café, comme d'habitude, mon opéra. Je le goûte, il n'a plus le même goût qu'avant. Je repasse 2 semaines, pareil, et je demande à la dame à l'accueil, j'ai dit, vous avez changé de pâtissier ? Ah non, madame, c'est le même. Et c'est là où j'ai compris que plus jamais pour moi, les choses auront le même goût.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Nathalie, mère de djihadiste, un reportage de Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Maître Hervé Denis. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire.